VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 1er janvier 2020. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
À l'occasion du nouvel an, édition plutôt spéciale qui sera consacrée en grande partie à la célébration du nouvel an, à de traditionnels discours de fin d'année de chefs d'État avec nos correspondants en Afrique et aussi à des bilans de l'année écoulée.
Nous aurons aussi les derniers développements de l'actualité, ainsi que notre page sport et la Minute Éco.
Alors tout de suite, un tour d'horizon de Jean-Roger Bion sur la célébration du Nouvel An, ici aux États-Unis et dans le reste du monde.
Le monde a basculé aujourd'hui en 2020 avec des foules nombreuses et festives après Sydney ou encore Hong Kong et le continent américain dernier à entrer dans cette nouvelle décennie. À New York, une foule dense est rassemblée à Times Square pour entendre plusieurs artistes avant d'entrer dans la nouvelle année. Mais la première mégapole a basculé dans la nouvelle décennie, Sydney. La plus grande ville d'Australie a affronté une polémique sur l'opportunité de son spectacle pyrotechnique dans le contexte des immenses incendies qui ravagent le pays. Les festivités ont été, dans de nombreuses régions du globe, placées sous le signe de troubles et de bouleversements politiques. À Rio de Janeiro, plus de 2000 policiers étaient mobilisés pour assurer la sécurité des festivités sur la célèbre plage de Copacabana qui a accueilli près de 3 millions de personnes. À Hong Kong, après plus de 6 mois de manifestations quasi quotidiennes, des milliers de manifestants s'étaient rassemblés à travers la ville, notamment sur le front de mer à Victoria Harbour. À Moscou, le président Vladimir Poutine a appelé, dans ses vœux de fin d'année, les Russes à l'unité pour poursuivre le développement du pays au 20e anniversaire de son arrivée au pouvoir en 1999. Plus tôt, dans la capitale française, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées sur la plus belle avenue du monde, comme le revendiquent les Parisiens, pour célébrer l'année nouvelle. L'ambiance était à la fête sur cette avenue, théâtre en 2019 de nombreux affrontements entre forces de l'ordre et gilets jaunes, des Français en colère contre la politique sociale du gouvernement qui se sont vus interdits de manifester mardi soir.
En République centrafricaine, dans son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, le président Faustin Archange Touadéra a appelé hier soir ses concitoyens à l'unité et à faire bloc contre ce qu'il a appelé les manipulations de Bangui, correspondance de Freeman Sipila.
Dans une adresse de 25 minutes en français, le président centrafricain a passé en revue les réalisations faites par son gouvernement pour le relèvement du pays, plongé depuis fin 2012 dans une crise sans précédent. Faustin Archange Touadéra appelle à l'unité et à la consolidation de la paix.
Je vous invite à vous unir dans l'intérêt de la stabilité, de la paix et de la sécurité. Nous devons maintenir le cap pour atteindre le bien commun, la chose la plus précieuse qu'est la paix pour notre pays.
Le président centrafricain annonce par ailleurs une mesure de grâce pour des prisonniers condamnés avant le 31 décembre 2019.
J'ose croire que les délinquants condamnés, bénéficiaires de cette mesure, ont eu l'occasion de réfléchir aux conséquences de leurs actes et auront désormais des comportements respectueux et dignes vis-à-vis de leurs concitoyens et de la République.
Pour l'instant, on ignore qui est concerné par cette mesure de grâce, sachant que plusieurs ex-miliciens anti-Balaka et Séléka ainsi que des responsables de crimes graves ont été jugés et condamnés avant le 31 décembre 2019. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a, lui, dans son message, appelé ses compatriotes à planter des arbres pour faire face aux menaces du dérèglement climatique qui a déjà causé d'importants dégâts dans le pays, notamment avec les inondations dans le nord. Sur les autres points évoqués dans ce discours de Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Qui démarre, les différents axes d'action sont balisés.
Denis Sassou Nguesso a appelé les populations à garder espoir malgré les difficultés économiques que traverse le pays. L'année 2020 est porteuse de beaucoup d'espoir vu les prévisions économiques, a-t-il déclaré. Il a par ailleurs rappelé que c'était aussi l'année de la célébration des 60 ans d'accession à l'indépendance du Congo-Brazzaville. Un événement qui doit être fêté avec dignité et fierté malgré la crise économique, a dit le chef de l'État congolais. Le président Sassou Nguesso a consacré une bonne partie de son message au dérèglement climatique dont le Congo est actuellement victime avec les inondations et les glissements de terrain ayant occasionné d'énormes pertes matérielles et en vies humaines. pour Denis Sassou Nguesso, qui a appelé les populations à redoubler les efforts dans le reboisement. C'est une injustice provoquée par les pays riches, mais qui ne payent pas la compensation.
Bonne et heureuse année 2020.
Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Niger, le président Mahamadou Issoufou s'est adressé mardi soir à ses concitoyens dans un contexte sécuritaire très difficile pour leur pays. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa nous résume son discours.
Pendant une vingtaine de minutes, le président Issoufou a évoqué plusieurs sujets touchant à la vie de la nation avec en premier plan la situation sécuritaire qui s'est dégradée en 2019 avec la recrudescence d'attaques des groupes terroristes. Pour les combattre, il a promis de mobiliser en 2020 toutes les ressources stratégiques. 2020 sera également une année électorale au Niger. Issoufou a renouvelé son appel à la classe politique pour un dialogue sincère pour des élections qui satisferont tous les acteurs.
L'année 2020 sera un tournant décisif pour notre pays. Les défis sont énormes, mais je sais que grâce à la détermination et à l'ambition de notre peuple, nous continuerons à les relever afin de progresser vers l'avènement d'un Niger émergent. Un Niger tel que j'ai souhaité qu'il soit dans mon discours d'investiture le 2 avril 2016 et tel que je souhaite qu'il soit le 2 avril 2021, au moment où, grâce à Dieu, je passerai le relais au président que vous aurez élu. Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Pour le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, sans les bonnes nouvelles d'une économie qui tient debout, 2019 aurait été une année noire. Évoquant les attaques djihadistes, les lourdes pertes de l'armée malienne et des forces étrangères, notamment françaises et de l'ONU, il a relevé que, à une échelle sans précédent, des localités entières de chez nous, qui furent jadis havres de paix et de tolérance, ont vu la haine tuer et brûler. Alors que le sentiment anti-français s'est accru, le président malien a souligné qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Il s'est dit convaincu que le sentiment de gratitude envers les pays alliés est celui de la majorité des Maliens.
En Guinée, le président Alpha Condé, à qui l'opposition prête l'intention de briguer un troisième mandat à la fin de l'année, n'a pas modifié son projet d'organiser des législatives en février. Il compte aussi soumettre à la population un projet de réforme de la Constitution qui a pourtant fait descendre les Guinéens par dizaines ou centaines de milliers dans la rue quasiment toutes les semaines depuis près de 3 mois. Les derniers mois ont été marqués par des manifestations politico-sociales ayant engendré des pertes en vies humaines, a reconnu le président Condé.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a promis pour sa part une année électorale paisible en 2020, année de la prochaine présidentielle, tandis que ses deux principaux opposants, l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et l'ancien président Henri Konan Bédié, ont dénoncé les atteintes du régime à la démocratie dans leur message de nouvel an. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec notre correspondant Siri Kibaro.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, la tension était sensible mardi soir près du domicile d'un ancien chef controversé de la marine de Guinée-Bissau. À la veille de l'annonce du vainqueur de la présidentielle, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'ex-contre-amiral José Américo Bubo Natshuto affirme que des hommes en armes l'empêchent de sortir de son domicile. Cet homme, qui a fait 6 mois de détention pour tentative de putsch en 2012 et 3 ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue, a expliqué être soupçonné par l'armée de vouloir renverser le résultat du scrutin qui doit être annoncé ce mercredi.
Et ici aux États-Unis, le président Donald Trump a menacé mardi de faire payer le prix fort à Téhéran après l'attaque de l'ambassade des États-Unis à Bagdad par des milliers de manifestants pro-iraniens au cri de « mort à l'Amérique ». L'Iran sera tenu pleinement responsable des vies perdues ou des dégâts occasionnés dans nos installations. Ils paieront le prix fort, a prévenu dans un tweet le président américain, ajoutant « ceci n'est pas une mise en garde, c'est une menace ». M. Trump a toutefois dit ne pas s'attendre à une guerre entre les États-Unis et l'Iran. « Je ne vois pas cela se produire », a répondu M. Trump à un journaliste qui l'interrogeait sur cette possibilité. Pour sa part, le secrétaire à la Défense, Mark Esper, a annoncé que quelques 750 soldats américains supplémentaires allaient être envoyés immédiatement au Moyen-Orient en réponse aux événements récents en Irak. Les manifestants irakiens protestaient contre les frappes aériennes américaines de dimanche en Irak et en Syrie contre une milice appuyée par l'Iran, frappes qui ont fait 25 morts et c'était après une attaque à la roquette contre une base irakienne qui a coûté la vie vendredi à un sous-traitant américain.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le port autonome de Douala, le plus grand du Cameroun, ordonne la saisie de l'ensemble des biens gérés et exploités par l'opérateur privé DIT, Douala International Terminal. DIT annonce cependant qu'il saisira la justice pour contester cette tentative de spoliation. Pour l'opérateur, la réquisition n'est possible que dans des situations très spécifiques de sécurité nationale, de catastrophes naturelles ou de très graves accidents. DIT gère le terminal de Douala depuis sa privatisation il y a 15 ans. L'exportation du gaz provenant du gisement de Léviathan d'Israël vers l'Égypte devrait débuter ce 1er janvier. Le consortium exploitant Léviathan a signé un accord évalué à plus de 15 milliards de dollars avec le groupe égyptien Dolphinos pour l'approvisionnement en gaz naturel sur 10 ans. L'exportation de ce gaz est la plus importante coopération économique entre l'Égypte et Israël depuis la signature de leur accord de paix il y a 40 ans. Pour terminer, en Afrique du Sud, le mineur mondial Rio Tinto déclare que les opérations complètes de son unité RBM reprendront ce mois après avoir réduit leurs effectifs en raison de problèmes de sécurité pour ses travailleurs. Il y a eu un certain nombre d'incidents violents dans les mines du pays, y compris des vols, qui ont soulevé des questions sur le manque de sécurité et les menaces qu'il représente pour l'industrie. RBM produit du minerai d'ilménite pour le titane à partir de gisements de sable minéral.
Les sports à présent avec Eric Manirakiza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football, Manchester City, l'arrière-garde Laporte, proche de retour.
Le défenseur français de Manchester City, Aymeric Laporte, gravement blessé au genou droit fin août, pourrait faire son retour dans le groupe d'ici une semaine ou peut-être 10 jours, selon son entraîneur Pep Guardiola. Manchester City, double champion d'Angleterre en titre, n'est que 3e de la Première Ligue après 20 journées et à 14 longueurs du leader Liverpool.
En Espagne, Thomas Lemar est blessé à une cuisse.
L'international français milieu de terrain de l'Atlético de Madrid souffre d'une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse droite, a indiqué ce mardi son club sans préciser de durée d'indisponibilité. Il est considéré comme l'un des principaux candidats au départ du mercato d'hiver qui débute jeudi en Espagne.
Italie, Ibrahimovic, présenté à la presse par l'AC Milan vendredi.
Oui, l'attaquant suédoise Zlatan Ibrahimovic, de retour à l'AS Milan pour 6 mois, sera présenté à la presse vendredi. Le club milanais aurait déboursé 3,5 millions d'euros plus bonus pour s'assurer les services de l'ancienne star du Paris Saint-Germain, du Barça et de Manchester United, notamment avec une option d'une année supplémentaire.
En athlétisme, on parle d'un doublé à la corrida de la Saint-Sylvestre de Sao Paulo.
Les Kenyans ont remporté ce mardi les catégories masculines et féminines de la 95e édition de cette corrida courue sur une distance de 15 km. Kibiwot Kandi a soufflé sur la ligne l'Ougandais Jacob Kiplimo pour une seconde et signé au passage le record de la course. L'autre Kenyan, Titus Ekiru, complète son podium 100% africain avec un chrono de 43 minutes 54 secondes. Chez les dames, la Kenyane Brigitte Kosgei s'est largement imposée, loin devant le peloton, devenant l'une des 3 femmes à passer sous les 50 minutes. Une autre Kenyane, Sheila, s'est hissée à la 2e place devant l'Éthiopienne Tissadik Alem Negus et 3e. Plus de 35 000 coureurs ont disputé cette année la course historique créée en 1924. Applaudi par des centaines de personnes, dont beaucoup étaient déguisées.
Et pour terminer, quelques résultats de la NBA hier soir. Boston et Charlotte 109 à 92, Indiana et Philadelphie 115 à 97, et les Clippers et Sacramento 105 à 87, Toronto et Cleveland 117 à 97, Denver et Houston 130 à 104, et enfin San Antonio et Golden State Warriors 117 à 113.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour, consacrés essentiellement à des bilans de fin d'année. Au Sénégal, le président Macky Sall a profité de la traditionnelle adresse à la nation pour évoquer la situation actuelle du pays. Parmi les points retenus par les Sénégalais rencontrés après ce discours par notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué, la projection vers les défis futurs, l'emploi des jeunes et la nouvelle monnaie éco.
Les Africains doivent préparer l'avenir et assumer leurs responsabilités à travers une intégration économique régionale plus forte et plus solidaire. C'est ainsi que le président Macky Sall a expliqué le processus de création d'une monnaie unique ouest-africaine, l'éco, à partir de 2020. C'est une heureuse perspective d'après le chef de l'État, mais incomprise pour certains Sénégalais comme Pape.
Je pense qu'une question aussi importante que la devise monétaire, ce qui devait se faire en amont n'a pas été fait. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il fallait au moins des discussion en interne, au niveau du Parlement, à l'Assemblée nationale, ou bien, je ne sais pas moi, au sein du gouvernement, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas, mais en tout cas, de cause, la question n'a pas été reballée au niveau des populations. Les populations ne savent pas ce qui se passe avec ce problème d'Ecola ou bien de France CFA. Lui, il vient pour défendre ce que sa population n'a pas du tout compris. Moi, je ne comprends pas cette démarche.
Le chef de l'État, Macky Sall, a aussi annoncé le programme Sénégal propre, le durcissement des peines concernant le viol et la pédophilie, mais également la mise en place de centres départementaux de formation professionnelle pour lutter contre le chômage. Et pour les jeunes comme Sohna Dem, le président de la République doit passer à la concrétisation de toutes ces annonces.
Maintenant, il faut poser des actes pour que l'on puisse croire à ce que disent nos chers politiciens. Moi, je note juste quelques points qui m'ont beaucoup marqué, c'est-à-dire il a parlé de la création de 13 centres de formation professionnelle. Il a parlé également de l'adoption d'une loi qui criminalise les viols contre les femmes et les jeunes filles. Et il a également parlé du Sénégal zéro déchet, le désencombrement et la création de la brigade de désencombrement. Je crois que ça, c'est de bonnes initiatives. C'est un pas en avant vers le futur quand même.
Le futur, c'est justement l'un des points phares de l'adresse à la nation du président Macky Sall. Le chef de l'État a partagé sa vision d'un développement solidaire et inclusif pour l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, à l'électricité, aux services de transport, à la santé et à l'éducation. Des objectifs fixés à l'horizon 2025, trop loin pour Boniface Sadio.
On ne doit pas se focaliser sur un futur qui est incertain. On doit se focaliser d'abord sur le présent. Qu'est-ce que les Sénégalais sont en train de vivre? Est-ce que tu as en premier lieu réglé les choses les plus minimes des Sénégalais en fait? Je pense que quand on parle de futur, on doit d'abord régler ce qui est présent. Par rapport à ce que les Sénégalais vivent, le système est en faille par rapport à cela. Parce que des fois, on met sur place des solutions par rapport à l'environnement, par rapport à l'assainissement, mais on remarque toujours qu'il n'y a pas de suivi. Mais si on se focalise sur ce que le président vient de dire, on peut avoir confiance qu'il pourra y avoir un suivi.
Au-delà de ces questions, le chef de l'État Macky Sall a affirmé que la violence qui secoue actuellement le monde doit constamment rappeler au peuple sénégalais la chance de vivre en paix et la responsabilité de la préserver. Pour le président Sall, cette paix est un legs laissé par les générations passées qu'il faut entretenir et transmettre aux générations futures. À Dakar, Sélina Abagué pour VOA Afrique.
Au Tchad, notre correspondant André Konmadjinga revient sur les points saillants de l'année 2019 et a recueilli des réactions de citoyens, d'hommes politiques, d'acteurs de la société civile et de journalistes tchadiens.
Pour la plupart des citoyens tchadiens, l'année 2019 a été éprouvante pour certaines familles, accablées par la réduction drastique de salaires, primes et indemnités à cause de la crise économique et financière. Les agents de l'État n'arrivent pas à subvenir aux besoins vitaux de leur famille. L'Aldjim Narcisse Mbaynadi, journaliste et analyste politique, déplore également l'instabilité politique.
On a assisté aussi à ce qu'on appelle l'instabilité gouvernementale. Chaque deux mois, chaque trois mois, on remanie le gouvernement. Et cela n'est pas de nature à favoriser la bonne action finalement, le poste ministériel est devenu une banalité au Tchad.
Pour l'activiste Rassou Gagé, 2019 a été une année difficile pour le peuple tchadien.
On a manque d'électricité en saison pluvieuse. Nos frères sont inondés, les maisons s'écroulent sur eux comme des oiseaux. Il faut que le Tchadien arrive, envoie son enfant à l'école. Le Tchadien n'a qu'à aller se faire soigner. Le Tchadien n'a qu'à vraiment avoir la vie comme les autres citoyens sur cette planète.
Il y a certainement une embellie financière qui augure pour la nouvelle année. C'est ce que promet l'ancien ministre et cadre du parti au pouvoir, Gamara Silek.
Il y a la relance de l'économie qui est annoncée, c'est déjà une bonne nouvelle. La loi des finances vient d'être votée et c'est l'information qui en ressort. La deuxième chose, c'est que nous allons vers plus de tranquillité dans la gestion au quotidien de notre pays. Et donc nous pouvons aborder avec beaucoup de sérénité les échéances qui ont été reportées, les élections législatives notamment.
Pour les défenseurs des droits de l'homme, la particularité de l'année 2019, ce sont les affrontements intercommunautaires qui ont entraîné plusieurs centaines de morts dans la partie nord du Tchad, au centre et dans l'extrême sud. Maître Midaï Guiribaï est le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme.
Ces communautés s'affrontent parce qu'ils croient que l'État est faible et dès l'instant où l'État ne fait pas valoir ses pouvoirs régaliens, des individus s'affranchissent de l'autorité de l'État et on a enregistré beaucoup de morts gratuites dans le Wadaï et autres. Vous savez qu'il y a un état d'urgence qui permet donc aux forces de l'ordre d'abuser. On a eu beaucoup de cas qui montrent bien qu'il y a une situation de non-droit dans ces zones-là.
Affrontement intercommunautaire, l'ancien ministre et cadre du parti au pouvoir Gamara Asilek trouve la situation inquiétante et engage la responsabilité du gouvernement.
Le conflit intercommunautaire est axé essentiellement sur la question du terroir. Et la question du terroir ne peut pas se régler par la loi d'urgence. Et il faudrait que l'État puisse s'imposer. Et nous sommes devant une situation où les communautés pensent que la terre leur appartient. Et entre ces deux, il y a un problème. Donc il va falloir que l'État puisse réguler comment cela doit se passer. Si on ne le fait pas, on n'est pas sorti de l'auberge.
Autre particularité, selon Maître Midaï Guirimbaï, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, c'est aussi les atteintes aux droits fondamentaux des citoyens.
Exceptionnellement, en 2019, nous avons assisté aux arrestations des activistes, des défenseurs des droits de l'homme, de plusieurs journalistes, à la fermeture des journaux. Le plus grave que nous avons constaté en 2019, c'est qu'on est passé de comportements belliqueux à une remise en cause de la personne humaine. Les citoyens tchadiens ont commencé par avoir des comportements très criminels.
Bonne et heureuse année 2020 à tous et à chacun. André Kodumadjingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Au Gabon, l'année 2019 aura été particulièrement mouvementée sur le plan politique. La gestion des affaires publiques en l'absence de son président Ali Bongo, malade, soigné à l'étranger, a débouché sur de gros scandales financiers et économiques. De Libreville, notre correspondant Ismaël Obiangze.
Le Gabon avait débuté l'année 2019 sur une tentative de putsch. Cette opération, menée par une poignée d'éléments de la garde républicaine, s'était soldée au bout de 5 heures par une reddition du fameux commando du lieutenant Kelly Ondo-Obiang. Coup d'état avorté, signe d'un malaise profond au sommet de l'État, ou une véritable mascarade, c'est selon. Mais pour Gérard Elangema, président du Front Patriotique Gabonais, parti politique de l'opposition modérée, tous les ingrédients d'une insurrection ont émergé avec le déficit de communication sur la santé du président gabonais, victime d'accident vasculaire cérébral en Arabie Saoudite.
Lorsque le président a eu des ennuis de santé à Riyad, nous sommes partis de fatigue sévère, fatigue. C'est-à-dire, il y avait même des mots savants que même le citoyen ne pouvait pas comprendre. Même le médecin spécialiste ne pouvait pas comprendre. Donc la communication était une communication qui ne permettait pas aux citoyens d'avoir une idée claire sur l'avenir de notre pays.
L'absence prolongée du chef de l'État pour des raisons de santé a de fait entraîné une guerre de clans dans son propre entourage. C'est le point de vue de Ken Mavungu, étudiant en droit à l'université Omar Bongo de Libreville.
Après le parcours politique de la JEV de Brice Takrush Alianga, on s'est dit que là, le PDG était mort, mais le PDG a tué une dernière balle qui renaît de ses cendres. Et là, ils ont complètement détruit la JEV. Totalement. Peut-être que c'est un folklore politique, on ne sait pas. Mais franchement, je ne vois pas la JEV se relever après un tel coup. Quoi. Une association créée dans le but de produire le PDG. Brice Takrush Alianga avait créé ça. Mais malheureusement, Il est déjà le président a gagné les élections en 2016. Il était déjà du cabinet pendant 2 ans. Il connaissait tout ce qui s'est passé. Le voleur de Kevazingo, il connaissait la mascarade. Mais aujourd'hui, il est derrière les barreaux. On est là, on attend. On voit ce qui va encore se passer, le prochain film.
D'une affaire à une autre, la presse gabonaise n'était pas souvent logée à la même enseigne dans le traitement des différents dossiers. Freddy Koula, journaliste.
Il y a une presse à deux vitesses. Il y en a une qui a des exclusivités venant des autorités. Et il y en a d'autres qui sont obligées de se battre pour avoir de l'information, des informations fraîches pour colmater les brèches. Ceci dit, c'est comme ça que fonctionne le monde des people, des politiques. On envoie des alertes à qui veut pour envoyer des messages qu'on veut faire passer. C'est comme ça que fonctionne le paysage audiovisuel gabonais et peut-être africain.
À noter que tous ces dossiers sont sur la table de la justice gabonaise. L'opinion publique espère qu'ils seront traités en conséquence. Libreville, Ismaël Oubianze, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, 2020 est donc une année électorale déjà marquée par un climat de tension entre le pouvoir du président Alassane Ouattara et l'opposition aujourd'hui incarnée par l'ex-chef rebelle Guillaume Soro, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, et l'ancien président Henri Konan Bédié. Les trois leaders ont adressé un message aux Ivoiriens. En toile de fond, la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, nous dit notre correspondant à Boaké, Siriki Barreau.
Je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Je le réaffirme solennellement devant vous. N'en doutez pas. Ceux qui ont imaginé un seul instant que je négocierais ma candidature se sont trompés. Grâce à Dieu et au peuple de Côte d'Ivoire, je gagnerai la prochaine élection présidentielle ivoirienne.
C'est l'annonce faite par Guillaume Soro. Durant une vingtaine de minutes, en direct sur son compte Facebook, il s'est étendu longuement sur la procédure judiciaire à son encontre. Guillaume Soro dit être victime de son refus de participer à la confiscation du pouvoir par le président Alassane Ouattara.
Il ne s'agit ni plus ni moins pour M. Ouattara, en totale violation de la Constitution, que de vouloir faire un troisième mandat, d'ostraciser un candidat déclaré à l'élection présidentielle et de museler définitivement l'opposition politique. Jamais, je dis bien jamais, il n'a été question pour le candidat déclaré que je suis de tenter une quelconque déstabilisation du pouvoir actuel.
Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, ex-allié du régime en place, a aussi fustigé ce qu'il qualifie d'abus de pouvoir des dirigeants actuels. Il est revenu sur la condamnation de certains cadres de son parti, notamment Jacques Mangwa, président du conseil régional de Gbeke, emprisonné pour des faits imaginaires, selon Henri Konan Bédié.
Toute l'année 2019, j'ai dénoncé l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir exécutif. Cela met en péril les droits humains et rabaisse l'état de droit et la démocratie. Je note également le refus du gouvernement de créer les conditions propices à un scrutin présidentiel apaisé malgré les interpellations faites par les partis politiques de l'opposition significative.
Malgré ses attaques frontales sur la gestion de son pouvoir par ses alliés d'hier, Alassane Ouattara garde un ton ferme. La justice fera son travail et s'appliquera à tous, sans exception.
L'État sera là pour garantir la paix si chèrement conquise, ainsi que la sécurité des Ivoiriens et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Nul ne pourra perturber cet objectif. Aucune tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire ne pourra prospérer. Pour tous ceux qui se sont rendus ou se rendront coupables de tels actes, la rigueur de la loi sera intégralement appliquée. Nul n'est au-dessus de la loi, quel que soit son statut.
Les futures échéances électorales d'octobre 2020 s'annoncent tendues et le climat sociopolitique devient un peu plus délétère chaque jour qui passe. Siriki Barreau, Boaké, VOA Afrique.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne année 2020 et bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.